France Inter.
France Inter, il est 13h. Le journal de 13h avec vous, Sébastien Cabrita dos Santos. Bonjour Sébastien.
Et bonjour à tous. Pas d'eau, pas de farine, c'est la mort. Témoignage extrêmement fort venu de la bande de Gaza, où les rares journalistes sur place, à l'image de l'ensemble de la population, n'ont quasiment plus rien. Le ministre des Affaires étrangères assure de tous ses efforts pour en rapatrier le maximum en France. Les premiers transferts de narcotrafiquants considérés extrêmement dangereux dans le Pas-de-Calais ce matin à la prison de Vendin-le-Vieil. Une action en justice aussi lancée par UFC Que Choisir. L'association de consommateurs demande des indemnités pour tous ceux qui ont dû se passer dernièrement de leur voiture à cause des airbags défectueux Takata. La gauche, pour une fois à l'unisson, demande de revoter la loi Duplomb. L'oreiller boudé par les Français. On a perdu 1h30 de sommeil par nuit en un demi-siècle. Question de santé publique, le gouvernement sur saute. Et puis le Mont Ventoux au programme de la 16e étape du Tour de France. Mathieu Van Der Poel contraint à l'abandon.
Inter.
La presse libre et indépendante doit pouvoir accéder à la bande de Gaza. Déclaration donc ce matin du chef de la diplomatie française Jean-Noël Barrot sur Inter. Il s'avoue impuissant face à la détérioration dramatique des conditions de vie sur place, comme pour Youssef qui, comme l'ensemble de la population, manque de tout en ce moment, plus épuisé que jamais dans la région de Deir el-Bala où sa maison a une nouvelle fois ce matin été bombardée.
Tu te lèves le matin, tu cherches de l'eau pour boire, pour manger, pour y aller aux toilettes. Tu dois te battre pour avoir de la farine. Ça a devenu introuvable. Pas de farine, pas de pain. C'est la mort. C'est la mort. Comme journaliste, tu travailles, tu dois y aller. Tu dois couvrir, tu dois protéger tes enfants, tu dois chercher à nourrir. Nous, avec nos gilets, le gilet ne protège pas le journaliste à Gaza. Le contraire, tu seras ciblé. Moi, je suis personnellement sans gilet. J'ai jeté mon gilet. Qui va me protéger? Nous, les francophones, non seulement les francophones, tous les journalistes, vraiment, c'est des héros. Ils ont laissé leur famille sortir à travailler, juste sans rien, rien, dans des mauvaises conditions. Pas de gaz, pas d'essence, pas rien. Mais on est obligé de continuer. On n'a pas le choix. Le métier d'un journaliste, normalement, c'est grande chose. Mais malheureusement, ici, non.
Le journaliste Gazaoui Youssef avec Noah Perret. Comme lui, ils sont encore nombreux à travailler sur place, trop fatigués, diminués pour prendre une photo, selon la Société des journalistes de l'agence France Presse. Tous épuisés à l'image de toute une population, alors que le ministre des Affaires étrangères dit ce matin travailler au rapatriement de journalistes et collaborateurs. Bonjour Frédéric Saïs.
Bonjour Sébastien.
Et plusieurs centaines de personnes ont déjà été évacuées par la France en près de 2 ans.
Oui, selon nos sources, 580 29 personnes ont été évacuées de Gaza par les services consulaires français depuis le 7 octobre 2023 et le début de cette guerre. Des Français et des Palestiniens qui ont un lien avec la France, par exemple des professeurs ou des étudiants qui ont pu s'inscrire dans une université française. L'effort est toujours en cours. Depuis le début de cette année, ce sont presque 300 personnes, 292 exactement, qui ont pu quitter Gaza et rejoindre la France selon le Quai d'Orsay. À chaque fois, après négociation et accord des autorités israéliennes, chaque cas est individuel et nécessite beaucoup de travail, note une source diplomatique. Une fois les accords obtenus, ces évacuations se mènent par le point de passage de Kerem Shalom avant de rejoindre en bus d'autres pays de la région, notamment la Jordanie. Alors combien de journalistes et collaborateurs de médias français restent-ils sur place? Le Quai d'Orsay ne communique pas sur la question. Les évacuations sont décidées en fonction de l'état médical des personnes, mais aussi de leur lien avec la France et de la certitude qu'elles puissent y trouver un point de chute, y être accueillies par des proches ou de la famille.
Frédéric Saïs, de la rédaction internationale de Radio France. La situation humanitaire sur place est moralement inacceptable, déplore encore ce matin le patriarche latin de Jérusalem à son retour de Gaza. En France, c'est une grande première, l'un des symboles de la nouvelle politique contre le narcotrafic voulu par le ministre de la Justice. Gérald Darmanin annonce l'ouverture après 2 mois de travaux de la prison haute sécurité de Vendin-le-Vieil dans le Pas-de-Calais. Bonjour Delphine Evenou.
Bonjour.
Les premiers détenus considérés comme les narcotrafiquants les plus dangereux du pays viennent d'y être incarcérés.
Tweet posté au moment où les camionnettes franchissaient les portes dans un même cortège. 17 détenus donc transportés de leur prison d'origine vers Vendin dans des conditions de sécurité hors normes, détaille Gérald Darmanin. Le ministère de la Justice ne veut pas préciser lesquels sujets ultra sensibles depuis l'évasion meurtrière de Mohamed Amra en mai 2024. Amra, jusque-là détenu à Condé-sur-Sarthe, qui fait sans doute partie de ses premiers transferts, il a reçu la notification il y a quelques jours. Après plusieurs mois de travaux, Vendin-le-Vieil est désormais ultra sécurisé. Conditions de détention très strictes à l'isolement pour empêcher que les prisonniers ne continuent leurs affaires criminelles depuis leurs cellules. Plusieurs avocats, une fois informés de la volonté de l'administration pénitentiaire de transférer leurs clients à Vendin, avaient choisi de contester ce transfert, un recours qui n'est pas suspensif, ce qui explique que les 17 premiers narcotrafiquants présumés ou déjà condamnés aient pu rejoindre la prison du Nord-Pas-de-Calais ce midi. Prison où sont déjà incarcérés Salah Abdeslam et le braqueur Redouane Faïd.
Delphine Evenou, service police-justice. Un homme d'une cinquantaine d'années mis en examen, placé en détention provisoire, suspecté d'avoir projeté de s'attaquer à une fillette dans la région d'Orléans. C'était le mois dernier, on l'apprend ce matin. Bonjour Margot Steve.
Bonjour.
Il a été interpellé juste avant de passer à l'acte.
Oui, il avait repéré son école, ses trajets quotidiens et même les horaires de travail de sa mère. Et ce plan macabre, l'homme le partageait quasiment en direct avec d'autres pédocriminels sur des forums du dark web sans savoir qu'un policier de l'office mineur, infiltré, lisait tous ses messages. Au fil des discussions, le quinquagénaire, obnubilé par sa victime, partage des photos de sa jeune proie et dévoile ses intentions. La kidnapper à la sortie de l'école, la séquestrer, la violer, puis la tuer et l'enterrer dans un terrain qui lui appartient. Très vite, les enquêteurs identifient la fillette, puis son potentiel agresseur. Ils réalisent alors que cet homme connaît la famille de sa victime et habite tout près de chez elle.
Il y avait donc urgence, Margot, à l'arrêter.
Oui, les enquêteurs ont la conviction que le passage à l'acte est imminent. Il faut donc agir avant que la petite fille ne sorte de l'école. En quelques minutes, les policiers partent de la région parisienne pour aller interpeller le suspect. Dans son appartement, une corde, des médicaments pour droguer la fillette, mais aussi sur son ordinateur, plus de 100 000 photos pédopornographiques, dont plusieurs de cet enfant qu'il avait déshabillé virtuellement grâce à l'intelligence artificielle.
Margot Steve, il s'est rendu de lui-même à la police, un jeune homme de 24 ans. A été placé en détention provisoire, mis en examen pour meurtre et tentative de meurtre. Après la mort ce week-end dans une rixe d'un homme de 35 ans au sud de Lyon, c'est ce qu'indique ce matin le parquet.
France Inter, le journal de 13h. Sébastien Cabrita dos Santos.
Des sous pour les automobilistes forcés de laisser leur voiture au garage. L'UFC Que Choisir lance une action de groupe en justice et réclame des indemnités au constructeur Stellantis. C'est une première après les immobilisations forcées de quasiment 2 millions de véhicules équipés des airbags défectueux Takata de façon totalement anarchique et déraisonnée, déplore Magali Butard, la responsable juridique de l'association de consommateurs.
La défectuosité des airbags, elle est connue par tous les constructeurs du monde entier, et notamment Stellantis, depuis près de 10 ans. Donc naturellement qu'il était parfaitement possible de pouvoir organiser un rappel beaucoup plus tôt, sur une période beaucoup plus longue, ce qui aurait évité d'avoir aujourd'hui des consommateurs qui voient leur véhicule immobilisé, et donc ça leur aurait évité d'avoir à subir tous les préjudices que l'on liste effectivement aujourd'hui dans le cadre de lancement de cette action. Oui, ça peut potentiellement chiffrer, et pour chaque consommateur, on peut atteindre des sommes d'indemnisation qui dépassent le millier d'euros. Mais encore une fois, tout ça aurait pu être évité si des mesures de rappel simples avaient été orchestrées au fur et à mesure et que Stellantis n'avait pas attendu qu'il y ait des décès à bord de ces véhicules pour enfin prendre la mesure du risque que représentaient les véhicules qu'elle avait d'ailleurs continué à équiper des airbags Takata jusqu'en 2019.
Magali Butard, chez UFC Que Choisir, les airbags Takata sont jugés responsables de la mort de 18 personnes en France, la dernière le mois dernier à Reims. Enquête de la cellule Investigation de Radio France sur le site de France Inter. Lui est devenu comme un symbole de la détresse des éleveurs face au virus de la dermatose. Les services sanitaires sont depuis ce matin sur l'exploitation agricole de Pierre-Jean Duchesne à Cessan, sur la commune d'Entrelac en Savoie. Il était allé jusqu'à condamner l'entrée de son exploitation avec un bulldozer. Bonjour Philippe Père.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Vous êtes à 100 mètres du hangar en question, mais il ne peut finalement que se plier à la règle. Malgré tous ses soutiens présents sur place, une bête contaminée, c'est tout le troupeau qui doit être euthanasié.
Et oui, c'est près d'une centaine de vaches laitières qui sont euthanasiées en ce moment même. Dans le hangar en bois de son exploitation, on ne peut pas s'en approcher, des gendarmes nous en empêchent. Parce qu'on arrive au terme d'une séquence de forte tension, vous l'avez dit, ce blocage, cette mobilisation, et puis finalement, cet éleveur qui ne peut qu'accepter de voir son troupeau réduit à néant. Pierre-Jean Duchesne n'est pas présent, il a accueilli ce matin les services vétérinaires vers 8h30. Avant de partir, impossible d'assister à ça. Des amis éleveurs ont pris le relais, ils sont à l'intérieur. Il y a des membres de la coordination rurale, de la Confédération paysanne, une députée européenne du Rassemblement national également. Une fois l'abattage terminé, avant ce soir certainement, les vaches seront évacuées dans deux gros camions blancs. Tout se fait dans le calme, Sébastien. Dans cet écrin de verdure au cœur du massif des Bauges, on est en décalage là total avec ce qu'il se passe au cœur de cette exploitation. C'est inhumain ce qu'il se passe, m'a confié il y a quelques minutes Christian Convert de la coordination rurale. En larmes, il est reparti en disant « c'est un désastre, je ne peux rien vous dire de plus ».
Philippe Herr, ici Pays de Savoie, ex-France Bleu, la ministre de l'Agriculture a promis hier un renforcement des indemnisations pour accompagner les éleveurs de troupeaux touchés par la dernière et propose la mise en place d'un accompagnement psychologique dédié. La gauche comme unie pour lutter contre la loi Duplon, alors que la pétition pour réclamer l'abrogation du texte agricole dépasse désormais le 1,5 million de signatures. Insoumis, écologistes et socialistes réclament ensemble une nouvelle délibération et un nouveau vote au Parlement pour la loi définitivement adoptée il y a deux semaines, Lise Rosveil.
La chef de file des Insoumis, Mathilde Panot, en a fait la demande solennelle. Dans un courrier envoyé à Emmanuel Macron, elle prie le président de convoquer une nouvelle délibération sur la loi Duplon en vertu de l'article 10 de la Constitution. Le chef de l'État peut retarder la promulgation de la loi et renvoyer une partie ou l'ensemble du texte devant le Parlement. Une option poussée aussi par les écologistes et les socialistes qui multiplient les appels sur X ces dernières heures. L'abrogation étant longue et incertaine, il faut un nouveau texte pour effacer le précédent, la gauche mise tout sur une nouvelle délibération. Arthur Delaporte est député du Calvados et porte-parole des socialistes.
Si le Conseil constitutionnel ne censure pas la loi Duplon, alors la seule voie de recours possible, en dehors de l'examen d'une loi d'abrogation, mais qui prendra plusieurs mois, c'est le président de la République qui peut, en utilisant l'article 10, faire en sorte qu'il y ait un nouveau vote au Parlement. Il n'y a plus d'autre option.
Mais Emmanuel Macron est-il tenté de le faire? L'Élysée temporise, le président ne s'exprimera pas avant la décision du Conseil constitutionnel prévue au plus tard le 10 août. La réponse des sages attendue aussi avec beaucoup d'impatience par la gauche.
Lise Rosveil, service politique de France Inter. En Allemagne, l'exécutif assume désormais discuter avec des responsables talibans, bien qu'ils ne les reconnaissent pas directement, comme gouvernement légitime en Afghanistan, où ils ont récupéré le pouvoir il y a maintenant 4 ans. Bonjour Sébastien Baer.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Un correspondant à Berlin pour France Inter. C'est une initiative inédite au sein de l'Union européenne. Ils préparent ensemble de nouvelles expulsions après le renvoi, il y a 3 jours maintenant, de 81 condamnés afghans vers leur pays d'origine.
Ah oui, la présence de ces deux hommes en Allemagne, c'était la condition imposée par les talibans pour autoriser de nouvelles expulsions. Visiblement un peu embarrassée, la chancellerie a confirmé tout à l'heure l'arrivée des deux fonctionnaires le week-end dernier. L'un sera affecté à l'ambassade d'Afghanistan à Berlin, l'autre au consulat général de Bonn. Leur mission, accélérer les démarches administratives, valider les documents de voyage nécessaires pour procéder aux expulsions. Les noms des émissaires talibans ont été communiqués à Berlin en amont. Évidemment, les autorités allemandes ont passé leur profil au crible. Il s'agit d'ex-employés des services consulaires du précédent gouvernement afghan renversé par les talibans en 2021. Vous l'avez rappelé, Berlin ne reconnaît pas le nouveau régime islamiste, mais entretient avec les talibans des contacts techniques, contacts qui ont permis, avec la médiation du Qatar, d'organiser l'expulsion des 80 délinquants en fin de semaine dernière. Les prochains rapatriements devraient bientôt suivre. La coalition de Friedrich Merz en a fait l'une de ses priorités.
Sébastien Baer, correspondant en Allemagne pour France Inter. Non seulement on dort moins, mais en plus, on dort moins bien. Le gouvernement en France présente aujourd'hui sa feuille de route pour retrouver un sommeil de qualité. Bonjour Alice Cachaner.
Bonjour.
Un Français sur 5 dort moins de 6 heures par nuit. Un sur 2 ressent un stress qui impacte le sommeil, mais il n'y a rien d'irrémédiable.
Oui, on connaît depuis longtemps les messages de prévention sur l'alimentation et l'activité physique. Bien manger, bien bouger et maintenant donc bien dormir. C'est la première fois qu'une feuille de route interministérielle voit le jour sur ce sujet. Il faut dire que le sommeil des Français n'a cessé de se dégrader, résume Yannick Neuder, ministre de la Santé.
Des études ont chiffré que le sommeil des Français avait diminué d'1h30 en 50 ans et que 50% quasiment des Français se plaignent d'avoir un sommeil de mauvaise qualité. Et puis surtout, on sait qu'un sommeil de mauvaise qualité impacte des mauvaises santé, que ce soit une mauvaise santé mentale avec plus de stress, plus de dépression, plus de maladies métaboliques, d'obésité, de diabète.
À cela, on peut ajouter les risques accrus de maladies cardiovasculaires ou encore la probabilité plus élevée d'avoir un accident de la route. Concrètement, la question du sommeil sera abordée dès 2026 dans les carnets de santé, dans les écoles, les crèches, mais aussi au travail. Pour favoriser les micro-siestes, le gouvernement veut impulser la création d'espaces calmes, notamment dans les entreprises. Une grande campagne de communication sera également lancée avec des messages simples. Limiter les temps d'écran, éviter de trop varier les rythmes de sommeil entre le week-end et la semaine. Et enfin, dormir en moyenne 8 heures par nuit.
Alice Cachaner, spécialiste santé à la rédaction d'Inter, avec Florian Bugeant pour les moyens techniques. La circulation des trains extrêmement perturbée aujourd'hui en Bretagne. Des TGV, des TER sont supprimés. D'autres affichent plus de 3 heures de retard, conséquence d'un nouveau vol de câbles dans le Morbihan. Pas de reprise normale de la circulation annoncée avant demain matin par la SNCF. Brutal retour à la compétition après une journée de pause pour le peloton du Tour de France. 16e étape aujourd'hui entre Montpellier et le Mont Ventoux. Bonjour Xavier Monferrand. Bonjour Xavier Monferrand. Sur la route du Tour pour France Inter, sur la moto Radio France, est-ce que vous nous entendez ? Petit problème technique.
Bonjour,
pour joindre Xavier Monferrand. On va essayer de vous récupérer tout de suite.
Bonjour,
je parlais de cette 16e étape. Merci, vous êtes là avec nous. Et c'est un mythe hein, du Tour qui se dresse aujourd'hui devant le peloton du Tour de France. Liaison très compliquée avec vous, Xavier Monferrand. On vous retrouve dans une minute pour parler de cette nouvelle étape du Tour de France au lendemain d'une journée de pause. Avant ça, ce spectacle drag show en point d'orgue à une exposition sur la communauté queer de La Réunion. Ça se passe ce soir à Paris, au Jardin des Tuileries. Il y a une vingtaine de photos à voir, immortalisées par deux artistes après 5 ans de travail, Claire Checaglini, pour célébrer les personnes LGBTQIA+.
Un jeune homme au regard mélancolique, anneau dans le nez et à l'oreille, un danseur en tenue de soirée d'un rose flamboyant, portrait empreint d'humanité avec en arrière-plan la flore et les maisons de La Réunion, un choix important pour la photographe Raya Martini qui en est originaire.
On voulait récupérer le paysage réunionnais parce que les personnes LGBTQIA+, on est souvent montrés dans nos chambres, dans des clubs la nuit, mais c'est pas représentatif de la réalité parce qu'on est dans la rue, on est partout.
Car plus que des portraits, Raya Martini et Édouard Richard ont voulu rendre visibles des parcours passé sous silence.
Ce sont des histoires qui auraient pu sauver des vies il y a très longtemps si elles avaient été racontées.
Un message délivré avec d'autant plus de puissance qu'il l'est depuis le Jardin des Tuileries.
Ça renouvelle notre regard.
Cécile, une spectatrice admirative.
C'est vraiment important de voir des expos comme ça dans des lieux aussi institutionnels, ailleurs que dans des lieux alternatifs. Du coup, ça fait du bien, ça libère, c'est super quoi.
Comme l'écrivent les artistes en introduction de l'exposition, l'histoire de ces portraits chemine vers une mémoire universelle.
Queer, nous existe, c'est à voir cette exposition pendant encore 3 jours, Jardin des Tuileries à Paris, avec un débat organisé sur place à partir de 19h ce soir. Et puis la liaison décidément trop compliquée avec la moto Radio France sur le Tour de France, mais un mot de cette 16e étape tout de même qui s'annonce aujourd'hui entre Montpellier et le Mont Ventoux. Il y a 130 km de plaine pour commencer, puis ça se corse avec une ascension fulgurante, le peloton sans Mathieu Van Der Poel, bien connu du public français. Il abandonne, victime d'une pneumonie. Tout de suite, la météo.
La météo, avec l'alarme Vérissure. Détectez et mettez en fuite les intrus dès le jardin grâce au nouveau détecteur extérieur vidéo. Rendez-vous vite sur verissure.fr.
Bonjour Elodie Calac.
Bonjour à tous.
Moins d'averses, plus d'éclaircies.
Oui, sur la moitié nord jusqu'au Limousin, on a un ciel encore bien nuageux, des éclaircies qui se dessinent doucement. Les averses sont de plus en plus rares. On les trouve essentiellement des Hauts-de-France au Grand Est cet après-midi. Et on a une nouvelle perturbation qui va gagner la Bretagne en fin de journée avec des pluies copieuses sur le nord-ouest pour la nuit prochaine. Du nord de l'Aquitaine au Lyonnais, les éclaircies deviennent très belles. Le soleil brille largement du sud de l'Aquitaine vers la Méditerranée et les Alpes. Le vent souffle en Méditerranée, hein, jusqu'à 50 à 70 km à l'heure pour Mistral, Tramontane. Le vent est fort sur le nord de la Corse. Attention d'ailleurs aux vagues dangereuses sur la côte ouest de l'île. Les températures, elles sont un peu justes, toujours sur une bonne partie nord, avec 20 à 25 degrés attendus, 26 à 29 au sud, 28 à 31 en Méditerranée. Et puis demain, ce sera perturbé, hein, ce sera difficile d'échapper à la pluie. Des pluies parfois orageuses et très soutenues traverseront le pays d'ouest en est.
Élodie Calac, Météo France, merci à vous.